L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce radio-journal. Le fil de l'information en trois titres, le calme est revenu ce lundi à Uvira, mais les activités sont restées paralysées après une journée de dimanche caractérisée par des scènes de pillage et des coups de balles tirés dans plusieurs quartiers par des éléments Azalendo. L'on signale le retour dans cette ville des forces armées de la RDC alors que les troupes de la FSAM-23 sont positionnées en grand nombre à Sangé et Luvungi. Les communautés de la ville d'Uvira sont appelées à vivre ensemble. Abat la division, la violence, le désaccord, la manipulation et les messages de haine. Place à l'unité et le vivre ensemble. Message du Barza intercommunautaire du Sud Kivu à la suite de la propagation des messages de haine et de division en rapport à la situation sécuritaire à Uvira. En sport, l'OC Bukavu Dawa affronte ce mardi à Kinshasa l'AS Dauphin Noir des Goma dans le cadre de la Ligue 1 Illico Cash. Les Corbeaux retrouveront leur ancien entraîneur Birindo Kirongozi, actuel patron du staff technique de Dauphin Noir. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
La ville d'Uvira, au sud de la province du Sud Kivu, s'est réveillée dans un calme lundi 19 janvier 2026, un jour après l'entrée des combattants Azalendo suivie d'une unité dite Ibu des forces armées de la RDC dans la soirée de dimanche 18 janvier 2026. Alors que des coups de feu avaient retenti toute la journée de dimanche, des communiqués ont été diffusés dans des médias locaux pour mettre en garde tout élément au groupe Azalendo qui tenterait de trouver la quiétude, rapporte des témoins sur place. Explication Myriam Mofano.
Au centre-ville, les activités restaient paralysées. En effet, boutiques et magasins restaient fermés tandis que le transport en commun tourne au ralenti. L'on peut apercevoir des militaires qui font la ronde à bord de leur jeep tandis que le marché reste vide. Dans la plaine de la Ruzizi, comme par exemple à Kiliba, l'on rapporte également la présence des éléments Wazalendo et FARDC qui tentent de rassurer la population et stabiliser la situation après une journée de dimanche agitée, juste après le départ des troupes de la FSAM-23. Ces derniers se seraient concentrés vers la cité des Sangé et d'autres à Luvungi, indiquent des sources sur place. Parallèlement, des colonnes des militaires FARDC et ceux de l'armée burundaise arrivent en masse, se dirigeant vers Uvira en provenance de la ville de Baraka, dans les territoires de Fizi, rapportent des témoins dans la zone. En ce qui concerne le transport en commun dans la plaine de la Ruzizi, un correspondant occasionnel indique à Radio Maendeleo que des mouvements de motos et certains véhicules sont effectifs entre Luvungi, Sangé et Kamanyola, mais nombreux craignent encore de se rendre jusqu'à Uvira. Au chapitre de bilan, l'on rapporte la mort d'au moins deux personnes après avoir été atteint par balle dans la ville d'Uvira, ainsi que plusieurs autres blessés à Uvira et à Kiliba. Signalons que depuis le début de l'année, aucune école n'a ouvert ses portes dans la ville d'Uvira et ses environs à cause de la crise sécuritaire et le départ de plusieurs parents, élèves et enseignants vers le pays voisin comme le Burundi où ils vivent comme réfugiés.
Et c'est depuis dimanche tôt le matin que Kamanyola, une entité située dans le territoire de Walungu, accueille un nombre important de déplacés en provenance d'Uvira. Ces déplacés constitués d'hommes, femmes et enfants ont quitté Uvira après le retrait de la FSAM-23, redoutant des possibles représailles ciblées contre des habitants soupçonnés d'avoir collaboré avec ce mouvement. Toute la journée de dimanche, des motos et des véhicules ont effectué des navettes à Uvira-Kamanyola, indiquent des témoins sur place. Certains déplacés ont poursuivi la route vers Nyangezi et Bukavu en passant par les escarpements de Ngomo, tandis que d'autres sont passés par le Rwanda. Toutefois, une grande partie est restée à Kamanyola. Ici, ces déplacés ont trouvé refuge dans des salles de classe, des anciens bâtiments administratifs ou encore auprès des familles d'accueil. La plupart auraient passé la nuit à même les sols et en grande partie à l'extérieur, rapporte un défenseur des droits humains présent à Kamanyola. Et le Barza intercommunautaire pour la paix appelle les membres des communautés vivant dans la ville d'Uvira au vivre ensemble. À cet effet, il ne faudrait pas que les conflits des politiques affectent le vivre ensemble entre membres des communautés au point de fragiliser davantage la paix sociale. Dans un entretien avec Radio Mandela lundi 19 janvier, le président du Barza intercommunautaire pour la paix rappelle que ce qui unit les communautés à la base est plus fort que ce qui les divise. Pour Moussole Maraza, les membres des communautés vivant à Uvira doivent éviter de s'accuser mutuellement au sujet d'une quelconque appartenance à telle ou telle autre tendance. Il veut voir les habitants de cette contrée vivre en harmonie comme c'était dans le temps passé, mettant de côté les préjugés, la discrimination et les accusations sans fondement. Moussole Maraza décourage également le partage des messages de haine incitant à la violence et la discrimination. On l'écoute.
Notre constat a été fait depuis longtemps et que ce qui trouble les communautés, ce qui font que les communautés sont toujours en désaccord, ce sont les politiciens avec leur manipulation. C'est ça. Et nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous adresser aux politiciens pour qu'ils puissent cesser ce genre de manœuvre qui ne sert à rien. C'est plutôt mettre les gens en désaccord. Voilà, nous sommes des Congolais, les enfants du même père et même mère. Donc nous devons faire en sorte que ce qui se passe à Uvira ne puisse pas nous toucher. Au contraire, nous devons absolument nous protéger. Hein. Il ne faut pas suivre ce qui se passe au niveau de la politique. J'ai toujours l'habitude de dire, laisse la politique aux politiciens. Et nous, on continue à vivre, nous nous occupons de ce que nous devons faire.
Moussole Maraza, président du Barza intercommunautaire pour la paix. Et le trafic routier entre Bukavu et Uvira, en passant par Kamanyola et l'ensemble de la plaine de la Ruzizi est suspendu depuis dimanche 18 janvier, suite à la situation sécuritaire jugée instable sur cet axe. Les transporteurs affirment que les voyageurs hésitent à prendre la route, craignant d'éventuelles attaques. Des témoins indiquent que certaines personnes qui ont forcé le passage ont été dépouillées de leurs biens par des hommes armés mais non identifié, la matinée de lundi 19 janvier 2026. Au petit matin de ce lundi 19 janvier, certains transporteurs avaient déjà rangé leur bus prêt à quitter Bukavu pour Uvira, mais aucun passager ne s'est présenté. Pour Diop Loboshi, responsable de l'agence Okapi Original qui exerce sur cet axe, c'est l'insécurité persistante qui décourage les voyageurs. On l'écoute.
Tu vois toi-même, en arrivant ici, tu es sur le terrain. Les gens ont peur de fréquenter cette route. Je peux dire que les trafics est suspendu compte tenu de l'évolution de la situation à Uvira. Les clients ont peur et ne savent pas comment la situation va évoluer.
Et à l'international, la réunion organisée le week-end dernier au Togo autour de Forian Simbe, médiateur désigné par l'Union africaine pour la crise en RDC, ne consacre pas la création d'une nouvelle initiative de paix. Il s'agit d'une suite logique des rencontres entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais, João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine. Cette explication est de Joseph Baraka, directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba, une organisation d'analyse et recherche sur les questions des gouvernances et des paix. Il précise qu'à travers son rôle de médiateur désigné de l'Union africaine, le président togolais assurera le suivi des engagements pris dans le cadre de toutes les initiatives de paix, ce qui donne au Togo un rôle clé de coordination de tous les efforts des paix. Joseph Baraka explique.
La rencontre du samedi 17 janvier 2026 à Lomé n'est pas le signe d'un nouveau processus. Surtout est-il déjà que l'Union africaine s'était déjà impliquée dans cette question congolaise et avait délégué le président togolais Faure Gnassingbé comme son délégué sur cette question, ainsi que d'autres anciens dignitaires comme par exemple l'ancien président nigérien Obasanjo. Donc c'est une suite logique des rencontres qui avaient déjà eu lieu entre le président Félix Tshisekedi et le président angolais Lourenço, qui est de surcroît le président de l'Union africaine, et qui ont entraîné mentionner plusieurs consultations que l'Angola a menées avec l'AFC-M23, les tandem M-65-O et d'autres parties prenantes de ce conflit qui ont été consultées pour ça. L'objectif, comme il a été communiqué après la rencontre, est qu'il faut que l'initiative africaine joue le rôle de centralisation de toutes les initiatives qui ont été déjà faites et d'aboutissement de revendications sur les dialogues congolais qui doivent être engagés. Et cela n'est pas sans rappeler l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013. Donc l'idée de centralisation doit donc conduire à ce que si les initiatives qui ont été déjà faites dans Washington et ce qui a été recommandé que Doha soit mené à bout, c'est pour s'assurer que tous les engagements qui seront pris là-bas par des initiatives séparées engagent toutes les composantes, dont celles congolaises.
Pour rappel, une réunion s'est tenue samedi dernier à Lomé au cours de laquelle l'ont pris part entre autres des représentants de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. Vous suivez Radio Mandela dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Suivez Radio Maindeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maindeleo. Radio Maindeleo, c'est vous.
Parlons santé à présent. Le territoire de Mwenga fait face à une situation sanitaire jugée préoccupante, marquée par la résurgence de plusieurs épidémies dans différentes zones de santé. Ces informations sont rapportées par le bureau de coordination de l'ancienne civile, la force vive du territoire de Mwenga, dans une dépêche rendue publique lundi 19 janvier 2026 et consultée par la rédaction de Radio Mandeleo. Détail, Omer Moudet Kereza.
Selon cette structure citoyenne, des cas de choléra sont enregistrés dans la zone de santé d'Itombwe, notamment dans les aires de santé de Miki, Kabumbu, Kitopo et Lubumba. Bien plus, la zone de santé de Mwenga fait face à une multitude de cas de rougeole touchant les aires de santé de Bisembe, Ngando, Mulombozi, Iganda, Tuseswa et Kalole. Lit-on dans ces documents, la société civile signale que les zones de santé de Kitutu et Kamituga, limitrophes à celles de Mwenga, sont aussi affectées, mais avec des facteurs aggravants comme les déplacements forcés des populations, l'insuffisance alimentaire et l'absence de produits pharmaceutiques essentiels. Face à cette situation, le président de la société civile Force Vive de Mwenga, Lungele Itebo Samuel, lance un appel à un appui humanitaire multisectoriel, estimant que la réponse locale reste insuffisante pour contenir les risques sanitaires et sociaux. Il en parle.
Nous alertons aux intervenants humanitaires et sanitaires. Nous sommes victimes de plusieurs maladies et aussi des maladies épidémiologiques, rougeole et choléra en territoire de Mwenga. Et tout cela nécessite une riposte d'urgence. Et vous savez très bien que l'insécurité et l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 2 nous expose à la mort par manque de produits pharmaceutiques. Et malgré cela, nous comptons beaucoup à votre responsabilité et engagement humanitaire pour surmonter les barrières qui nous séparent avec l'état d'ordre et des droits sanitaires en territoire de Mwenga.
Sur le plan éducatif, la société civile appelle les parents à envoyer les enfants à l'école. Elle en dit que les enseignants sont présents dans les établissements scolaires de Mwenga Centre depuis le 6 janvier, mais plusieurs élèves se livrent à des activités qui ne sont pas de leur âge, comme sur l'axe Kibumba.
Et pas un jour sans aider une personne en besoin, c'est le nom de la campagne lancée dimanche 18 janvier par la génération Eric Kisangani Georges. Elle est lancée pour soulager la souffrance aux populations du territoire de Kabare en particulier et de la province du Sud Kivu en général, confrontée à la guerre actuellement. Pour son démarrage, la génération Eric Kisangani a procédé à la remise des vivres et non-vivres aux personnes vulnérables dans le sous-village de Tirehe, dans la localité de Kabushwa, en groupement d'Irambikatana. Ces vivres étaient constitués entre autres des sacs de riz, du sel et du savon. Eric Kisangani, président honoraire de la jeunesse d'Irambikatana et président de la génération qui porte son nom, promet de sensibiliser d'autres personnalités des cabarets afin de s'inscrire dans cet élan de solidarité. Il promet d'étendre aussi cette campagne dans d'autres groupements du territoire de Kabare. Après réception de l'assistance, les bénéficiaires remercient le donateur en l'invitant à plaider auprès des autorités à tous les niveaux pour le retour de la paix et surtout pour une assistance à grande échelle. Vous suivez Radio Mandeleo, à présent la page de sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Mandeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, la Fédération internationale de football FIFA, via son président Gianni Infantino, a désingué la sélection sénégalaise pour son attitude lors de la finale de la CAN dans un communiqué. Cette finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal, aura déchaîné les passions. En plus d'un enjeu sportif évident, la rencontre a été marquée par l'épisode répété des serviettes d'Edouard Mendy et plusieurs polémiques liées à l'arbitrage, dont ce pénalty accordé au Maroc en toute fin de temps additionnel qui a poussé les Sénégalais à quitter la pelouse temporairement. Une façon d'afficher leur mécontentement suite à l'arbitrage jugé pro-Maroc avec un but annulé quelques minutes déjà plus tôt. Après cette rencontre, le sélectionneur national, Papa Thiaw du Sénégal, s'est tout de même excusé devant le public. À l'opposé, la FIFA détruit le Sénégal et réclame les mesures appropriées. Je cite, « Nous condamnons fermement le comportement des quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. » Les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football, peut-on lire dans ce communiqué signé par Gianni Infantino, président de la FIFA, qui plaide pour des sanctions à l'endroit des fautifs. Et au niveau national, l'OC Bukavu d'Awa joue ce mardi 20 janvier avec l'AS Dauphin Noir de Goma dans le cadre de la Ligue 1 Illico Cash. Cette rencontre se joue à Kinshasa au stade Tata Raphaël à partir de 14h heure de Bukavu. À l'occasion, les corbeaux de Bukavu d'Awa vont retrouver leur ancien entraîneur Birin Douakilongozi qui est le nouveau patron du staff technique de l'AS Dauphin Noir. Lors de la précédente journée, vendredi dernier, Bukavu d'Awa a fait jeu égal d'un but partout avec le dernier club Motema Pembe Desampé, un score qui présage une nouvelle image des corbeaux en cette phase retour du championnat. Cela semble facile à dire, mais la preuve passe par une succession des résultats positifs face à des adversaires du calibre de Dauphin Noir. Revenons sur la dernière journée, il y a lieu de rappeler aussi la bonne performance du FC Étoile du Kivu vendredi dernier. Les Oranges ont obtenu le point du nil face à Ange Vert de leur ancien entraîneur Tifo Miezi. Le score au terme de ce match était d'un but partout.
La revue de presse, Radio Mindélo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Le kidnapping des enfants mineurs dans différentes parties des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, des cas de suicides à répétition dans le territoire de Kabare et la victoire de Yoweri Museveni aux élections présidentielles en Ouganda sont autant de sujets commentés par les journaux et médias en ligne. Le tour de l'actualité dans cette revue de presse signée Myriam Mufano.
Commençons par Watoto News, qui fait savoir que deux enfants ont été enlevés au quartier Malépé, en ville de Beni, et retrouvés vivants dans la Brossambao, en territoire des Beni au nord Kivu. Leur disparition avait provoqué une vive inquiétude au sein de la population locale, déjà confrontée à une recrudescence des cas d'enlèvement ces derniers mois. Selon les sources de ces médias, le kidnappeur aurait ballonné les enfants à l'aide d'étoffes, les aurait également transportés à bord d'une jeep aux vitres fumées, avant de les abandonner dans la brosse, après leur avoir injecté des substances inconnues en se servant des seringues. Contacté par Watoto News, la division des affaires sociales dit soupçonner l'existence d'un réseau structureux de kidnappeurs opérant dans la région et appelle la population à une vigilance maximale tout en collaborant avec le service de sécurité afin de démanteler ces groupes criminels. S'exprimant le 17 janvier 2026 au cours d'un échange avec la presse locale, le chef du village Tchabouine, Mwamiru Abika, a fait savoir qu'une disparition suspecte avait été signalée dans la zone des Kamalembe, au sein du sous-village de Kaboneke 3. La personne portée disparue est une fillette âgée de 12 ans, dont la famille est sans nouvelles depuis le 15 janvier. À en croire les sources de Watoto News, cette disparition sera intervenue après l'arrivée de personnes inconnues qui auraient usé du prétexte religieux pour éloigner momentanément la mère du domicile familial. À son retour, l'enfant n'y était plus. Depuis lors, aucune place n'a permis de la localiser. Entre-temps, ST News fait écho des nouveaux cas de suicide par pendaison enregistrés dimanche 18 janvier 2026 dans les sous-villages Turato situés au village Kamakombe, groupement du Bougoré, un territoire des Kabaré. Selon le témoignage recueilli sur place par ces médias, la victime s'est nommée Bissimwa Chiza Emmanuel, âgée d'environ 21 ans. Des sources de la famille indiquent que le jeune homme présentait depuis plusieurs années des troubles et des comportements, une situation qui avait conduit ses parents à entamer un processus de prise en charge médicale, malheureusement sans issue favorable. Contacté par ST News, Jean Zihiré, représentant du chef du village Kamakombe, a condamné avec fermeté cet acte, soulignant qu'il s'agit de nouveaux cas qui vient s'ajouter à 4 autres pendaisons enregistrées en 2025 dans le même village du groupement des Bougouri. Celui-ci appelle le parent à renforcer les dialogues au sein de famille, tout en exhortant les acteurs sociaux et sanitaires à intervenir en urgence à travers des actions de sensibilisation pour prévenir des nouveaux cas dans le groupement des Bougouri en particulier et dans les territoires du Kabaré en général. Terminons cette revue de presse par Africa News, qui indique que Yoweri Museveni a remporté l'élection présidentielle ougandaise avec 71,6% de voix, prolongeant un règne entamé il y a près de 40 ans. Malgré cette large victoire, la participation n'a été que de 72%, la plus faible depuis les retours du multipartisme en 2006. Le président estime que de nombreux abstentionnistes étaient pourtant des partisans de son camp. À en croire ces médias, son principal opposant, Bobi Wine, crédité de 24,7%, rejette les résultats qu'il juge frauduleux et envisage un recours judiciaire. Le scrutin s'est déroulé dans un climat tendu, caractérisé par la coupure d'Internet, les défaillances techniques et les violences ayant causé plusieurs morts parmi les partisans de l'opposition renchérit ces médias. Museveni, âgé de 81 ans, s'apprête à entamer un 7e mandat après avoir modifié la constitution pour supprimer les limites du mandat et d'âge. Ses soutiens mettent en avant la stabilité du pays, tandis que l'opposition dénonce une répression politique persistante à un processus électoral biaisé, conclut Africa News.
Par ici pour enfin ce radio journal, Anissé Akonko a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Manélo. Au revoir.